On va enchaîner sans plus tarder avec une table ronde plutôt consacrée à la formation continue, pas seulement, et à la coopération qu'il doit y avoir derrière la formation continue, même si on a vu que cette coopération avait sens aussi sur la formation initiale. On a bien noté ce qui a été dit dans la table ronde qui vient de se passer, que cette coordination régionale devait intégrer potentiellement, il serait intéressant qu'elle intègre aussi des acteurs de la formation initiale. On l'a bien noté. Donc je demande les intervenants dont vous voyez les noms s'installent. Alors, il y a un changement. Abdoulaye Keïta, qui était là ce matin, ne peut pas être là cet après-midi. Et je remercie infiniment Nathalie Herny, qui est conseillère livre et lecture en Guadeloupe, d'avoir accepté de remplacer au pied levé Abdoulaye Keïta. Je vous laisse, Nathalie, vous installer pour parler de la situation particulière de l'Outre-mer, qui correspond à une vraie... un vrai projet collectif pour améliorer la situation de l'Outre-mer. La formation est importante de ce point de vue, pas seulement, on va le voir, mais voilà, on souhaitait aussi traiter, faire un focus particulier sur la situation de l'Outre-mer. Je donne la parole à Laetitia.
Oui, bonjour à tous. Donc, nous allons débuter cette dernière table ronde de l'après-midi. Quels outils et quelles coopérations pour une formation adaptée à différents publics? Donc, nous allons évoquer la question de la formation tout au long de la vie, donc pendant 1h30, dont 15 minutes d'échange avec la salle. Donc, effectivement, le rapport Orsena pointait une mutation, une évolution des métiers, que déjà en 2007, Anne-Marie Bertrand, qui était alors directrice de l'ENSI, mettait à jour dans un article du BBF. 4 évolutions de notre monde professionnel. La première d'ordre technique, la généralisation des bases de données, Internet, les moteurs de recherche, les catalogues collectifs, la normalisation pour ne citer que. La seconde évolution, celle du contexte ou de l'écosystème. Anne-Marie Bertrand disait à ce propos: jadis, l'action se déroulait sur un territoire administratif qui correspondait peu ou prou au territoire de la décision publique. Aujourd'hui, ce territoire s'est étendu aux agglomérations, aux intercommunalités. La troisième concerne les publics, de plus en plus nombreux, divers, exigeants. Les publics ont amené les bibliothécaires à réviser certaines approches et à appliquer de plus en plus une orientation client, faisant la part belle à ce qui était dans la culture professionnelle des tabous, communication, marketing, politique de la demande, enquête de satisfaction, etc. Enfin, la quatrième évolution touche au mode de fonctionnement, l'ouverture, les partenariats, la collaboration, la mutualisation, la négociation, la transversalité, l'évaluation, le positionnement stratégique, la prospective sont devenues des réalités de travail essentielles. Ces dynamiques dont Anne-Marie Bertrand faisait le constat se sont poursuivies, accélérées, élargies, obligeant à une remise en question permanente des postures et compétences professionnelles. La formation professionnelle tout au long de la vie est une donnée essentielle permettant l'adaptation nécessaire à l'évolution du métier. Pour paraphraser Dominique Caro, professionnaliser dans l'emploi ne peut suffire quand on mesure la complexité et la diversité des compétences qu'exigent les missions confiées à un bibliothécaire aujourd'hui. Pour cela, il existe une offre de formation riche proposée par de nombreux acteurs et pour en citer quelques-uns, l'ENSIB, le CNFPT, les CRFCB, les bibliothèques départementales, des associations, je pense au SLPJ, à l'ABF, des institutions. Ce matin, Christine Carrie évoquait le rôle de la BPI, mais aussi la BNF, etc., etc. La liste est longue et il est difficile de les citer tous aujourd'hui. Les besoins de formation, mise à niveau, approfondissement, prise de poste, nouvelles fonctions, sont nombreux. Pourtant, on sait qu'ils se manifestent quelquefois de façon erratique, voire qu'ils refusent de se manifester. Ainsi, des freins subsistent dans l'accès à la formation. Quels outils et quelles coopérations pourraient faciliter le travail des professionnels en matière d'organisation de la formation ? Pour débattre de ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir, alors de gauche à droite, Nathalie Scoriante, qui est directrice adjointe chargée des formations à l'Institut national spécialisé des études territoriales de Nancy pour le CNFPT. Christophe Pavlides, qui est président de l'Association des directeurs et directrices de centres régionaux de formation carrière des bibliothèques, mais aussi directeur de Médiadis. Donc Nathalie Herny qui donc, a accepté, et je l'en remercie infiniment, au pied levé de remplacer Abdoulaye Keïta. Donc Nathalie est conseiller livre et lecture à la DAC de Guadeloupe. Donc la DAC de Guadeloupe, ce sont les DRAC des Outre-mer. Et puis Marion Druard, qui est directrice de la Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique, mais aussi responsable de la commission formation à l'Association des bibliothécaires départementaux. Donc merci à vous quatre d'avoir accepté la participation à la table ronde. Alors pour commencer à répondre à la question et afin de donner une vue des contraintes, des enjeux et des contenus, je cède la parole à Nathalie Scorianz pour le CNFPT pour une présentation de la structuration et de l'accès à son offre de formation et pour un point sur les constats et les freins que l'organisme observe en matière de formation.
Merci, bonjour à toutes et toutes. Et puis merci pour cette invitation et de pouvoir partager avec vous sur ces constats et les enjeux de la formation en bibliothèque. Alors, peut-être juste un rappel sur le CNFPT pour vous dire que c'est un établissement public qui est unique, mais aussi paritaire, c'est-à-dire que dans son conseil d'administration, il est composé pour moitié de représentants des élus des collectivités et puis d'élus des organisations syndicales. Donc c'est important parce que ça montre aussi la proximité du CNFPT et des besoins que peuvent faire remonter aussi les élus. Le CNFPT est organisé de manière déconcentrée dans 18 délégations et leurs nombreuses antennes et dans 5 instituts. Là aussi, c'est important, puisqu'au-delà de l'offre catalogue, nous avons aussi une offre vraiment territorialisée, en intra, ce qu'on appelle en intra ou en union de collectivités. Le CNFPT a une mission de service public, c'est celle de former les 1,8 million d'agents territoriaux avec l'offre de services qui se répartit en trois grandes catégories. Les formations obligatoires qui représentent en gros 20% des formations. Alors dedans, on a notamment les formations d'intégration post-concours qui permettent aussi d'acquérir une culture territoriale. Il y a aussi tout ce qui est préparation au concours, c'est 12% de notre offre. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'on appelle l'offre catalogue, qui représente 68%. Ce qu'on peut dire aussi, c'est effectivement la réorganisation du CNFPT depuis août 2019, qui fait que maintenant nous sommes organisés comme les grandes régions administratives, ce qui peut aussi faciliter les liens avec les partenaires. Le sens aussi de cette réorganisation, c'est de proposer une offre la plus proche des besoins des usagers et qui facilite aussi l'accès de tous les agents territoriaux à notre offre, quel que soit leur métier, leur cadre d'emploi, leur collectivité employeur ou leur implantation géographique. Voilà, poser ces quelques éléments sur les freins que nous pouvons observer. Ils sont de plusieurs niveaux. Un premier niveau qui concerne l'offre sur un territoire, mais surtout son accessibilité, c'est-à-dire comment on la rend accessible par la communication, puisque pour aller en formation, autant encore faut-il la connaître. Ensuite, ça pose aussi donc la question de, au niveau de la collectivité, quelle est la politique de la collectivité en termes de formation ? Est-ce que c'est une véritable priorité ou pas ? La question qui a été évoquée à maintes reprises ce matin de la continuité de service quand on est dans des petites structures. Ça peut être aussi des questions de budget, de reste à charge, même si nous, au CNFPT, on prend en charge les frais de déplacement et d'hébergement. Pour autant, il peut, notamment pour les journées d'actualité, les rencontres territoriales, tout ce qui est événementiel, c'est à la charge de l'agent ou de sa collectivité. Les autres freins que nous, on peut aussi identifier, ce sont des freins managériaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir des postures de manager qui incitent à aller en formation, qui vont aider à la préparation au départ en formation, et quand l'agent va revenir, va faciliter le partage des connaissances, de la compétence qui a pu être acquise, ou au contraire des postures d'encadrant, de manager qui préfèrent garder absolument leur agent et qui ne vont pas faciliter le départ en formation. On a remarqué aussi depuis la crise Covid, puisqu'on a accentué le nombre de formations en distanciel, des difficultés liées au matériel informatique. Parce que c'est, même si on est en 2021, on constate qu'avoir un ordinateur avec une caméra, une carte son, voire un bureau dans lequel on n'est pas dérangé sans arrêt, c'est pas si simple et c'est pas donné à tous les agents. Et puis après, bien sûr, il y a des questions liées aux usages de l'informatique qui ne facilitent pas non plus. Et ça, quelle que soit la catégorie et quel que soit le métier, je dirais. Et puis après, on a aussi des freins plutôt individuels. On a, nous, 10% d'absentéisme dans nos formations, c'est-à-dire que quand bien même les agents se sont inscrits, qu'ils ont confirmé leur participation, au moment de venir en formation, il y en a 10% qui ne viennent pas. Et le motif le plus fréquemment avancé, c'est la continuité de service et le manque de temps. Et puis, bien sûr, on sait que les contraintes familiales de déplacement, liées aussi à la durée des formations, une formation est longue, et on s'absente plus longtemps, et parfois les contraintes personnelles font que ce n'est pas possible, ou en tout cas que c'est contraignant. Et puis, bien sûr, et c'est le dernier point que j'aborderai, ce sont tous les freins psychologiques, et notamment quand on est confronté à des agents qui ont eu soit des échecs dans le passé, ou alors des agents qui font se dire « mais si je demande une formation, ma hiérarchie va penser que je ne suis pas compétente ». Enfin, voilà, tous ces freins psychologiques qu'on peut penser que ça reste caricatural, mais auxquels nous, on est confrontés encore régulièrement.
Merci. En effet, le CNFPT est le partenaire le plus évident des collectivités territoriales en matière de formation, pour lequel d'ailleurs les collectivités cotisent et les plans de formation sont très régulièrement travaillés avec les DRH et le centre de la fonction publique. Mais depuis quelques années, le ministère de la Culture accompagne également les CRFCB pour accueillir des agents territoriaux. Et Christophe Pavlides, quelle structuration pour les formations tout au long de la vie des CRFCB et comment cela prend forme et les difficultés également que vous avez pu pointer dans l'accès à la formation?
Oui, merci beaucoup. Alors, un petit rappel, les CRFCB, contrairement au CNFPT, ne sont pas un établissement, mais un réseau, puisque nous sommes rattachés à 12 établissements universitaires différents. Mais c'est quand même un réseau très structuré, puisqu'on a une répartition géographique tout aussi rigoureuse que celle des délégations du CNFPT et que nous nous y tenons scrupuleusement entre nous. Nous ne sommes pas en concurrence les uns avec les autres, et moins que jamais, je tiens à le souligner. Ce que je veux souligner aussi, c'est que si nous sommes un des opérateurs de la formation des bibliothécaires au sens large de l'enseignement supérieur, comme l'ENSIB, comme le réseau des urfistes, en réalité, nous avons deux parents, si j'ose dire, qui sont le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la Culture, qui ont créé ces centres par convention tripartite dans les années 80. Donc, d'une certaine manière, ce qui est en train de se passer depuis 4-5 ans et depuis le rapport Orsena, c'est un peu un retour à la maison, et je n'aurais pas la malice de dire si c'est le ministère de la Culture ou si c'est les centres qui sont en train de rentrer à la maison, mais en tout cas, on s'est bien retrouvés après quelques années où, effectivement, les ponts étaient tous sauf coupés. Hein, simplement, les crédits étaient moins là, les politiques volontaristes étaient moins là aussi, et du coup, on se retrouve à avoir théoriquement les moyens de faire, entre guillemets, aussi bien avec avec la lecture publique, avec les bibliothèques territoriales, qu'avec les bibliothèques universitaires. Mais en même temps, on se rend compte que il y a aussi des freins. Un frein, et ça a été rappelé par ma voisine, ça a été souligné ce matin par Raphaël Gilbert, c'est qu'en territorial, on a beaucoup d'équipements où on a entre 5 et 24 personnes, ce qui n'est absolument pas le cas à l'enseignement supérieur, et que ça a un effet énorme sur est-ce qu'on libère les gens ou pas pour aller en formation. C'est tout bête, mais quand on est dans une grosse bibliothèque municipale de plus de 50 personnes, je pense que c'est vraiment pas la même problématique et qu'on est dans une problématique beaucoup plus proche de ce qu'on connaît dans la plupart des bibliothèques universitaires. Un autre problème, évidemment, c'est qu'on a très conscience d'être totalement à part, hein, d'avoir été inventé à un moment donné pour une profession un peu particulière, mais que, évidemment, l'acteur légitime et naturel, c'est le CNFPT. Et donc, la question qui se pose, c'est celle de nos rapports avec le CNFPT. Et là, on est dans une variété de situations insoupçonnées d'une région à l'autre, puisqu'il y a des régions, on va peut-être en parler tout à l'heure, où on est dans des logiques de coopération, et il y a des régions où on est dans des logiques de sous-traitance, puisque fort heureusement, nos centres ont le droit d'être sous-traitants d'autres organismes de formation. Bon, c'est notre cas, j'enlève un instant la casquette de président du réseau pour mettre celle de directeur de Mediadis. Depuis qu'il y a des appels d'offres, nous répondons aux appels d'offres du CNFPT. Le seul problème quand on répond à un appel d'offres du CNFPT, c'est que à partir du moment où on appliquait le code des marchés publics, la représentante du CNFPT n'a plus le droit de siéger dans nos instances de discussion, dans notre conseil, où on trouvait d'autres types de partenaires. Et surtout, quand on est en période d'appel d'offres, on n'est pas un partenaire, on n'a pas le droit de se parler sur le fond. Et si on a des appels d'offres trop fréquents, annuels par exemple, ou même à la limite tous les deux ans, les périodes où on peut se parler sur le fond sont quand même un tout petit peu réduites. Et donc c'est un mode de travail qui pose quand même question. Hein. Je reste convaincu, hein, je sais que c'est pas politiquement correct, mais je reste convaincu que le code des marchés publics appliqué à la formation, et plus généralement appliqué aux services, mais spécialement appliqué aux formations, ça a beaucoup d'inconvénients. Je peine parfois à voir quels sont réellement les avantages, mais passons. Donc en tout cas, ce qui est important, c'est de constater que, curieusement, il semble ne pas s'appliquer exactement de la même manière partout. Alors c'est peut-être aussi des questions de volume, hein, parce qu'il y a des seuils, hein, sur le code des marchés, donc effectivement, je pense que ça joue et que c'est un problème qui se pose plus aux grandes régions, entre guillemets, qu'aux petites. Et puis, un problème aussi qu'on a rencontré dans le passé, c'est un problème de visibilité de notre offre, qu'on a quand même assez largement, je crois, résolu en ayant désormais un portail unique, hein, qui s'appelle tout simplement crfcb.fr, donc qui, je crois, est pas mal référencé et qui permet de voir l'offre de l'ensemble des 12 centres, hein, à la fois préparation de concours, stage, journée d'études et formation statutaire post-recrutement, puisque la formation statutaire post-recrutement des baies à l'État, c'est nous aussi.
Merci Christophe. Juste pour rebondir, je ne sais pas si vous voulez réagir sur la question des marchés et de la relation au CRFCB.
Oh, juste deux secondes, parce que je pense que c'est une partie du propos, mais effectivement, je rejoins la diversité des situations, mais vous l'avez dit, c'est aussi lié au seuil de marché. Effectivement, quand on est en région Bretagne ou en région Auvergne-Rhône-Alpes, on n'est pas sur les mêmes niveaux de marché et parfois on est contraint par les seuils de marché public. Mais je rejoins le fait que ça rigidifie les relations quand on est effectivement en prestation, en tout cas au moment de la rédaction des marchés et puis de la désignation du partenaire retenu.
Donc cette fois, je vais traverser les océans et voilà Nathalie Herny, donc conseiller libre à la DAC de Guadeloupe. Effectivement, en outre-mer, un constat, un diagnostic sur la situation en termes de formation, des expérimentations ont été réalisées. Voilà, donc quel regard vous portez?
Alors, Merci pour cette invitation. Je porte la voix aujourd'hui des conseillers livres des Outre-mer avec lesquels nous avons préparé cette session, qui sont Bruno Lacrampe, ici présent pour Mayotte, Abdoulaye Keïta, qui n'est pas avec nous malheureusement cet après-midi et qui vous prie de l'excuser, pour la Guyane, donc un territoire encore très différent, et puis Yolande Salomé Thompson pour la Martinique, et Marie Jolotong pour la Réunion, et moi-même donc pour la Guadeloupe. Donc nous ne sommes pas tous les Outre-mer, mais nous sommes tous avec des expériences différentes. Le constat peut-être général, c'est quand même un grand problème de faire monter, on va dire, en compétences l'ensemble des équipes, parce que l'éloignement étant ce qu'il est, la relation régulière avec la lecture publique et la lecture publique telle qu'elle est aujourd'hui en Hexagone ou sur d'autres territoires des Amériques peut-être plus proches, n'est pas toujours pratiquée ni connue, sachant que certains territoires comme la Guadeloupe sont eux-mêmes des archipels, un archipel qui est constitué aussi d'îles que vous connaissez peut-être, les Saintes, Marie-Galante, la Désirade, qui chacune ont leur propre problématique et qui représentent quelquefois des territoires comme Mouchin ce matin de 1100, 1200 habitants. Donc des grandes agglomérations également. Quelle est la situation? Quelques établissements qui ont un véritable professionnalisme, qui ont bénéficié par le passé de compétences apportées par des managers culturels, pas toujours bibliothécaires, conservateurs au sens classique, et de plus en plus des attachés qui ont une véritable vision stratégique de politique culturelle et qui sont bien conscients aussi de la nécessité, sinon pour eux, mais pour leurs équipes, d'acquérir de véritables compétences en lecture publique, technique, sociologique, organisationnelle. Voilà. Donc une montée en compétences absolument nécessaires, parce que nous arrivons également à un basculement de génération. Ce qui a été évoqué ce matin par monsieur Bianchi, maire de Clermont, qui était: les bibliothécaires sont un peu les héritiers de mai 68, ils ont en eux de l'éducation populaire. Nous avons aussi des bibliothécaires qui représentent cette génération et qui vont partir bientôt à la retraite. Donc il y a un grave problème de renouvellement et qui est lié aussi à la mise en œuvre de nos politiques de lecture publique avec le ministère de la Culture, parce qu'il nous faut des opérateurs.
Voilà pour cet état des lieux. Donc, et qu'on poursuit en revenant peut-être sur le territoire hexagonal. J'ai bien saisi qu'on parlait d'hexagone et pas de métropole en Outre-mer. Donc, pour revenir donc sur notre territoire et de voir comment s'articule le rôle d'un acteur de proximité comme celui des bibliothèques départementales dans l'accès à la formation.
Alors, avant de parler de l'accès, peut-être parler de l'offre. On bénéficie d'un grand avantage en bibliothèque départementale, puisqu'on est en dialogue permanent avec à la fois les équipes des bibliothèques, bénévoles et salariés, mais aussi leurs élus et leur administration, à l'occasion de l'accompagnement de leur projet qui fait partie de notre mission centrale. Du coup, on peut être très, très réactif sur l'offre de formation et sentir ou entendre les demandes qui émergent des réseaux que nous accompagnons. Et ça nous permet une assez grande réactivité. Je crois qu'il y a donc il y a une offre de catalogue, en général, gratuite, d'accès pour l'ensemble des bibliothèques que nous accompagnons. Selon le territoire, on a les moyens ou pas de l'ouvrir aux communes au-delà des fameux 10 000 habitants énoncés il y a bien longtemps, historiquement, pour les missions des bibliothèques départementales. On peut ou on ne peut pas l'ouvrir. Évidemment, s'il y a la présence d'une métropole sur le territoire, ça fait beaucoup de collègues à accueillir, en plus des bibliothèques petites et moyennes que nous accompagnons plus traditionnellement. Donc il y a une offre de catalogue, il y a une offre aussi à la carte. Et par rapport à la collègue qui s'interrogeait tout à fait justement tout à l'heure sur ce nouveau métier qui est le métier de coordinateur de réseaux intercommunaux, où on a des collègues qui jusque-là diriger une bibliothèque et d'un seul coup se retrouve propulsé à la direction d'un réseau de parfois 30 bibliothèques de taille très hétérogène. On a ce cas de figure en Loire-Atlantique. Ça nous permet aussi de faire des formations à la carte pour une montée en compétences spécifiques pour des réseaux intercommunaux. Récemment, par exemple, on a accompagné l'équipe de direction d'un grand réseau intercommunal en Loire-Atlantique pour les aider à se positionner en tant qu'équipe de direction et d'animation et de relais auprès de l'ensemble des bibliothèques de leur territoire. Donc je pense que ces formations à la carte, elles sont vraiment très importantes. Et également un changement de posture essentiel, à mon avis, et qui est déjà très répandu dans les bibliothèques départementales. On n'est plus ceux qui expliquent à nos collègues ce qu'est une bibliothèque. C'est-à-dire qu'on n'est plus des prescripteurs, hein, c'est les mêmes réflexions qu'on a quand on accueille le tout public, mais on rentre en dialogue aussi avec des professionnels, avec des équipes qui font des expérimentations en direction des publics, d'offres de services, etc., et qu'il faut reconnaître cette montée en compétences qui existe on multiplie de plus en plus, je crois, enfin on multiplie de plus en plus, encore plus, bon, bref, on multiplie les échanges d'expériences à côté de formations plus descendantes, donc des échanges d'expériences sur des nouveaux services, beaucoup des partages autour des pratiques de médiation numérique, mais aussi sur des thématiques comme l'accompagnement des personnes âgées à travers le portage à domicile ou autre, l'accueil des migrants. Voilà, on a tout autant, notre rôle, je pense, il est plutôt de, comme on a la chance en bibliothèque départementale d'avoir une vision un peu globale des expériences menées sur un territoire, plutôt l'idée de les valoriser, de les faire dialoguer, que de venir en disant voilà ce qu'est une bibliothèque, voilà ce que vous devez faire, etc. Sur les freins potentiels, je ne vais pas revenir, Nathalie a décrit l'essentiel des freins, il y en a un quand même qui est un frein interne, on va dire individuel, c'est qu'on a quand même aussi des collègues qui disent moi ça fait 20 ans, 10 ans que je fais ça et je sais ce que c'est une bibliothèque, je n'ai pas besoin de me former. Ça existe chez les salariés comme chez les bénévoles, on est tous pareils de ce point de vue-là, il n'y a pas de jugement à avoir. Quand on fait depuis 15 ans la même chose, eh ben, ça se rigidifie quelque part dans la tête, hein. Quel que soit notre statut, et que ça demande un effort et une vigilance permanente pour éviter cette rigidification, donc qui passe par la formation continue, justement, pour s'assouplir un peu les cortex. Mais parfois, on ne fait pas ce travail-là. Et c'est un phénomène, donc, encore une fois, hein, qui existe chez nos collègues salariés, comme chez des bénévoles qui ont souvent été des militants de la lecture publique, qui sont à l'origine de la création d'un service de lecture publique dans une commune, mais qui, à un moment, s'installent dans un rôle. Je suis la bibliothécaire de la commune, je dis là parce que c'est quand même très, très majoritairement, ce sont très majoritairement des femmes engagées, et je pense qu'il faut saluer cet engagement de lecture publique, mais en même temps, être aussi lucide sur la capacité à se renouveler, à faire en sorte que la bibliothèque ne soit plus pas seulement la raison sociale de quelques personnes, mais bien un service et un bien public.
Donc au-delà des freins, j'entends aussi le positionnement territorial des bibliothèques départementales et de leur de l'adéquation à la formation lié à une connaissance aussi des enjeux, enfin une connaissance fine des enjeux sur le territoire et de cette adaptation.
Oui, complètement. C'est vraiment de cette connaissance, à partir de cette connaissance que nous construisons l'offre de formation, qu'elle soit à la carte ou sur catalogue ou en échange d'expérience. C'est vraiment sur cette connaissance, cette compréhension de ce qui se discute, de ce qui se teste sur le territoire. Parfois, on fait des flops, hein, on n'est pas non plus des super-héros. Des fois, il y a des thèmes de formation qui semblent évidents, et puis quand on les propose, on fait des flops. Récemment, à ma grande surprise, une formation sur l'accessibilité dans les bibliothèques a fait un gros flop, et en fait, je me suis rendu compte que ça intéressait les grandes bibliothèques, mais pas les petites, mais sans doute sur des questions d'arbitrage aussi, de capacité à libérer du temps pour de la formation. C'était dans les arbitrages, c'était pas cette proposition-là qui était prioritaire. Dans les freins aussi, mais ça, comme on peut les identifier assez finement, moi je vois, à l'occasion d'un changement d'équipe municipale ou de la mise en place d'un réseau intercommunal, on sent souvent des resserrages de boulons et du coup, dans les collectivités, et une moindre autorisation aux agents de venir en formation. Bon, en général, ça se régule au bout de deux ans, un ou deux ans, ce qui est dommage pour les collègues qui, en attendant, ne bénéficient pas de retour. Et sur la proximité également, il y a un autre élément, c'est le fait de construire des formations avec des partenaires locaux. Des journées professionnelles à l'occasion d'un salon littéraire, des formations également avec d'autres métiers. Et ça, c'est vraiment important. De plus en plus, dans les bibliothèques départementales, nous organisons des formations croisées entre professionnels de la petite enfance bibliothécaires, entre professionnels de l'animation gérontologique et bibliothécaires. Et je pense que ces formations, elles sont essentielles. Ça a été dit ce matin, une formation, l'intérêt d'une formation, c'est le contenu. Et c'est aussi, quasi pour moitié, l'échange entre les participants dans les échanges informels, dans les partages d'expériences, etc. Et dans le cas de formations mixtes pour des professions différentes, évidemment, ça permet ensuite que les gens se connaissent et puissent facilement s'appeler pour construire des projets ensemble. Et pour nous, l'enjeu, il est vraiment à cet endroit-là, de connaissances pour pouvoir faciliter la construction de projets, et on le voit très concrètement.
Merci. Donc effectivement, ceci trace un état des lieux à la fois de coopération interprofessionnelle, mais aussi des villes de plus de 10 000, de moins de 10 000, qui met en lumière du coup la richesse des formations des différents acteurs, notamment autour de la table, mais d'autres existent, comme je le disais en introduction, et met en avant aussi une nécessaire complémentarité peut-être à réfléchir. Et du coup, je vous propose, pour aller plus loin dans la problématique, que l'on fasse une focale sur quelques modèles, et avec deux propositions à développer. Donc les modèles de coopération d'une part, et puis une réflexion autour de l'outre-mer d'autre part. Voilà, donc sur les modèles de coopération, donc je sais que Nathalie, vous avez en tout cas regardé de près ce qui se passe en Bretagne, si vous voulez nous en donner des éléments sur ce modèle, mais aussi les modalités de sa réussite, enfin voilà.
Oui, alors juste une petite précaution, effectivement, on a souhaité présenter la coopération en Bretagne, mais bien sûr, elle n'est pas la seule et il y en a beaucoup d'autres sur le territoire. Celle-ci s'inscrit vraiment dans le temps puisque ça fait à peu près 25 ans qu'elle existe et elle s'est enrichie au fur et à mesure puisqu'autour de la table, il y a de plus en plus de partenaires qui ont rejoint la table. Actuellement, elle est composée, bien sûr, de représentants de la DRAC, de livres et lectures en Bretagne, de représentants des bibliothèques municipales. Les quatre bibliothèques départementales sont également présentes. Il y a l'ABF de Bretagne qui contribue, bien sûr le CRFCB Bretagne-Pays de Loire et le CNFPT. Ce qui est intéressant, c'est que cette collaboration, elle répond aussi vraiment à un besoin. Et ils travaillent en fait en trois temps. Un premier temps, c'est en mars-avril, où les partenaires travaillent un questionnaire, ou le toilette tous les ans. Et ce questionnaire, en fait, va être ensuite transmis à l'ensemble des bibliothèques de la région pour identifier les besoins en formation. Donc le questionnaire est construit ensemble, il est diffusé auprès des bibliothèques par l'agence Livres et Lectures en Bretagne. Bien sûr, il y a une relance pour maximiser les retours. Et puis, il y a un temps d'analyse des retours des questionnaires en mai-juin, qui permet d'identifier des thématiques importantes, en tout cas celles qui ressortent, des tendances lourdes, mais aussi des signaux faibles pour commencer aussi à se projeter et à renouveler l'offre de formation. Entre-temps, chaque partenaire a bien sûr travaillé sur sa propre offre de formation, L'intérêt aussi de s'inscrire dans le temps, c'est que chacun se connaît bien, connaît l'offre des autres membres de la coopération. Et donc, durant l'été, ils vont affiner les travaux pour construire aussi des événements communs. Et puis, ils vont aboutir à peu près en novembre à l'édition d'un catalogue régional qui présente l'ensemble de l'offre de l'ensemble des partenaires, que ce soit en formation initiale, en préparation au concours, mais aussi en formation continue. Donc il y a vraiment un catalogue unique qui avant était édité en papier, qui ensuite était édition papier numérique, et puis maintenant qui est en accès numérique. Donc il y a l'intérêt aussi de toucher, quand je parlais tout à l'heure de l'accessibilité de l'offre, c'est un des moyens d'y arriver. L'intérêt aussi de ce travail, c'est aussi de travailler sur les temporalités et en complémentarité. La complémentarité, ça ne veut pas forcément dire que toi tu fais, moi je ne fais plus, mais si on fait tous les deux, on va se répartir dans le temps pour multiplier les opportunités de formation, et peut-être que moi je vais programmer ma session en début d'année et puis que l'autre partenaire va la programmer plus tard. Ce qui ressort de ce travail aussi, et là il y a un travail vraiment plus entre le CRFCB et les collègues de Bretagne, c'est la mise en place d'un parcours partagé depuis plusieurs années, puisque ce parcours ne rencontrait pas nécessairement ses publics. Et le fait de l'avoir monté en commun fait que les sessions maintenant sont maintenues, avec aussi l'intérêt que les formations sont ouvertes autant aux collègues de l'État que de la territoriale. Et ça permet aussi des croisements de culture, des partages d'expériences. Voilà, donc il y a vraiment un intérêt très concret à cette collaboration. Et quand j'ai interrogé mes collègues de Bretagne sur l'intérêt de ce partenariat, alors je suis désolée, ils ne pouvaient pas être là, c'est pour ça que je les représente, mais ils m'ont dit que dans les conditions de réussite, c'était le fait que ce soit l'agence du livre qui porte, puisqu'elle y met des moyens. Elle y alloue 15 jours de temps homme par an pour vraiment garantir la continuité la conduite de projet, pardon. Et puis toute l'animation.
De temps femme, peut-être.
Ah oui, de temps femme. Merci Marion. Voilà, mais en tout cas des moyens dédiés. Et puis donc les temps forts, les trois temps forts dont j'ai parlé se font sous forme d'ateliers qui sont co-animés par l'agence Livre et Lecture, mais aussi par des représentants des bibliothèques, donc qui sont au cœur des questionnements. Et puis il y a un enjeu fort aussi dans ces conditions de réussite, c'est le rôle qui est joué par les bibliothèques départementales. Et je rejoins ce que Marion disait sur le fait que les collègues des bibliothèques vont aussi porter et présenter l'offre du territoire auprès des agents. Donc ils ont vraiment un rôle de médiation qui est crucial aussi et qui fait vraiment partie des conditions de réussite. Que vous dire d'autre ? Donc, ça s'inscrit encore une fois dans le temps. Il s'est posé la question de formaliser ce partenariat, puisque fut un temps, il y a eu une convention qui existait, puis a priori, elle n'existe plus. La question du conventionnement se repose. Et en tout cas, ce que moi, mes collègues me disaient, c'est pourquoi la convention ? C'est-à-dire, c'est important qu'on formalise, mais actuellement, ça marche bien sans. Donc voilà, se poser la question aussi de ce conventionnement et pas faire uniquement un conventionnement pour dire qu'on fait un conventionnement. Par contre, c'est l'autre face de la médaille, c'est que actuellement, cette collaboration elle repose aussi sur la bonne volonté des uns et des autres, et que le conventionnement peut avoir un intérêt de poser les choses de manière un peu plus institutionnelle, et que s'il y a des membres actuels qui partent, qu'on puisse continuer à inscrire le partenariat dans la durée. Voilà. Donc il y a une réflexion sur le conventionnement, sur le contenu de ce conventionnement, mais en tout cas un bel exemple de continuité dans le temps, et où chacun des partenaires aussi a trouvé sa place et apporte une plus-value, mais aussi y trouve aussi un réel intérêt.
Je voudrais réagir sur un ou deux points. Le premier, c'est que, justement, est-ce que le conventionnement ne serait pas une façon de sortir de cet infernal code des marchés publics sur certains aspects? Ça permet, je ne veux pas donner l'impression d'être obsédé par le sujet, mais il me semble que c'est un des cas, justement, où on peut faire des choses légales et intelligentes, et si on peut faire des choses légales et intelligentes, c'est encore mieux. Autre chose, c'est que on fait ce qu'on peut avec les partenaires qu'on a dans les régions où on est. C'est-à-dire que je suis dans une région où il n'y a plus de service régional du livre. On a eu le motif pendant quelques années, on a même fait une journée d'études avec eux qui s'appelait Coopérer en Ile-de-France, voilà. Mais le motif n'existe plus. La région qui était également adhérente de la FIL n'est plus adhérente de la FIL. Donc voilà, nous, notre interlocuteur naturel, c'est la DRAC. Et je constate que dans les régions où il n'y a pas de partenariat réellement formalisé actuellement, l'Île-de-France, le Centre-Val-de-Loire, PACA, etc., c'est plutôt vers la DRAC qu'on se tourne, parce qu'effectivement, on l'a dit, hein, le ministère de la Culture nous soutient beaucoup depuis 4 ou 5 ans, et y a des DRAC partout et des conseillers pour le livre partout aussi. Et sur les partenaires impliqués, c'est pas la même chose quand vous êtes dans une région où, hélas, il n'y a plus que 3 bibliothèques départementales et il n'y en a jamais eu plus que 4, il n'y en a jamais eu plus de 4 sur 8 départements, et où du coup il existe des associations départementales de bibliothèques municipales, où on a également des établissements nationaux comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, etc. Donc on a des contextes différents selon les régions. Donc on n'arrivera pas à un modèle unique. Par contre, on a une bonne volonté commune de faire des choses. Et on a des atouts à faire valoir. Un atout immense du CNFPT, c'est d'avoir une approche complètement intermétier. Il me semble que nous, un de nos atouts, c'est d'avoir une approche intertutelle. C'est-à-dire qu'on est très attaché à ce que les publics, à la fois de la lecture publique et des universités, puissent le plus possible se croiser dans nos formations.
Et avant de traverser la mer, je donne la parole aux bibliothèques départementales sur cette question de la coopération et l'organisation.
Oui, juste, si tu veux bien, pour compléter mon propos précédent, pour vous donner un ordre de grandeur quand même sur la formation en bibliothèque départementale. En Loire-Atlantique, ce n'est qu'un exemple, nous sommes évidemment très différents selon la ruralité ou pas du territoire, sa géographie et le développement de la lecture publique. Mais pour la Loire-Atlantique, donc, on est sur, hors crise sanitaire, hein, sur 700 stagiaires concernés chaque année, et en gros deux tiers de salariés, un tiers de bénévoles. Voilà, ce qui repositionne un peu les choses, parce que au début, en tout cas, de nos ateliers de concertation, j'avais l'impression que dans beaucoup de têtes, bibliothèque départementale égale bénévole. C'est plus complexe que ça. On travaille évidemment et avec grand plaisir avec des bénévoles, même si cette question du bénévolat mérite d'être interrogée et évolue dans le temps, hein, entre des bénévoles qui géraient de A à Z une bibliothèque, un bénévolat de projet aujourd'hui qu'on développe et qui commence à émerger. C'est quand même des choses assez différentes. Mais bon, pour revenir sur la coopération, alors je ne donnerai pas d'exemple pour les Pays de la Loire parce que nous ne sommes pas très bons sur les questions de coopération aujourd'hui. Mais je vois mes deux collègues conseillères livre et lecture, ça va changer bientôt. On est fermement décidés à faire changer ça. Mais en tout cas, tous les collègues que j'ai interrogés au sein de notre commission formation de l'Association des bibliothèques départementales, tous ceux qui pratiquent m'ont dit le premier effet positif quand même, c'est déjà l'échange. L'échange entre des professionnels de la formation, sur de la méthodologie pédagogique aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les thématiques abordées, mais il y a aussi les pédagogies qui peuvent être mises en place et l'innovation de ce point de vue-là. Et moi, je suis très souvent impressionnée par mes collègues en bibliothèque départementale, les chargés de formation, qui ont des pratiques parfois extrêmement innovantes sur les formes pédagogiques. Donc il y a le premier effet positif, c'est celui-là, celui de l'échange entre des professionnels de la formation pour un territoire donné, à l'échelle régionale, le plus souvent, hein, que le partenariat et la coopération soient initiés au niveau des DRAC ou au niveau de l'Agence régionale du livre. Et ensuite, il y a beaucoup d'expériences, effectivement, de catalogues communs ou de projets de catalogues communs. Moi, je citerai un exemple que je trouve particulièrement stimulant, c'est qu'au moment et réactif, et parce qu'il y a une habitude de coopération, en Occitanie, par exemple, qui est une coopération à l'initiative de l'Agence régionale du livre, il y a eu très très vite, peu de temps après le confinement, la mise en place d'une formation de formateurs pour des formations en distanciel. Et ça, je pense que ça a pu exister avec une telle réactivité, parce qu'il y avait une habitude de coopération et on voit là tout l'intérêt de la chose. Après, il y a d'autres formes de coopération aussi qui peuvent être tout à fait intéressantes et qui peuvent être beaucoup plus informelles. Et toutes bêtes, hein, vraiment, je ne sais pas, par exemple, on le fait nous, mais plein d'autres le font. Pour nos collègues de la formation ABF, moi je fais passer le message qu'on peut collecter les CV des gens qui sortent de la formation ABF et on est du coup un vivier pour les collectivités, pour les communes et les intercos, un vivier, alors le plus souvent pour des remplacements, parfois pour des recrutements, et donc on transmet des CV comme ça de gens qui sortent diplômés de la formation de l'ABF. On a aussi, on parlera tout à l'heure de la formation initiale, mais des réorientations tout simplement ou des échanges de communication. Moi, je transmets systématiquement au réseau des bibliothèques accompagnées par la Loire-Atlantique l'offre de formation du CFCB, ce qui me semble la moindre des choses. Et voilà, il y a des échanges qui sont... l'autre fois, une collègue de la commission migration de l'ABF m'a appelée parce qu'ils avaient une personne migrante qui souhaitait faire une formation de bibliothécaire en Loire-Atlantique. On a réussi ensemble à trouver une bibliothèque prête à accueillir cette personne. Voilà. Il y a aussi de la formation très informelle, parce que je me méfie aussi de la coopération très chronophage. Nous aussi, hein, Christophe, pour ne pas te laisser tout seul, nous aussi on est confrontés à des problèmes de marché public. Parfois ça alourdit beaucoup la construction de notre offre de formation. Et là aussi les pratiques sont très différentes. Moi, j'ai la chance d'avoir une collectivité qui a bien pensé cette question des marchés publics. Et du coup, je peux appeler n'importe quel formateur sur la thématique que je souhaite, quand je veux, avec quelques règles, évidemment, à respecter. Du coup, j'ai perdu le fil parce que je suis passée sur les marchés. Mais voilà, je ne sais plus ce que... Oui, sur la question chronophage. Voilà. Parfois, monter une formation, on a identifié une thématique qui nous semble importante de traiter à cet endroit, à ce moment-là. On appelle le formateur, on discute une demi-heure, une heure, on cale une date et hop, c'est réglé. Alors que si on est en coopération, qu'on veut la monter à plusieurs, il faut plusieurs temps de réunion, signer une convention probablement. Enfin voilà, donc il faut vraiment réfléchir à quel endroit le temps consacré à la concertation, qui n'est jamais perdu hein, par ailleurs, et à la coopération, est utile et efficace. On a aussi une question d'efficience à un moment de ce que l'on fait. Et je pense qu'il y a pour certaines formations, et je reviens à cette question des coordinateurs de réseaux intercommunaux, il y a des formations qui méritent d'être portées à une échelle régionale plus que départementale, soit parce qu'elles sont très très pointues, je pense notamment aux enjeux numériques, mais pas seulement, et donc vont concerner peu de collègues dans une même zone géographique. Et c'est vrai aussi pour les coordinateurs de réseau ou parce que ce sont des cycles plus longs et donc il faut, si on veut une masse critique de participants, passer à l'échelon régional, donc en coopération, et plus et souvent plus productif et plus intéressant.
Oui, tout à fait, effectivement, le doublonnage peut être pertinent et à contrario, quelquefois, on peut avoir des redondances de formation, on le voit en région, sans lier à la méconnaissance de l'offre de l'un et de l'autre, d'une part. Et d'autre part, il y a aussi cette question donc des agents dont parlait Raphaël ce matin, qui sont sur des tranches de population qui ne sont pas directement dans les radars, enfin, de la bibliothèque, bibliothèque départementale parce qu'on est sur des seuils de 10, 15, 20, 30 000 habitants et qui ne vont pas non plus nécessairement s'adresser à l'offre CNFPT pour tout un tas de raisons que vous évoquiez. Voilà, il y a aussi cette question-là. Est-ce que la coopération pourrait aussi être une réponse à cette question ?
Moi, je pense, par rapport, je pensais tout à l'heure à ce que disait Marion sur ça fait 15 ans que je fais ça, donc j'ai pas besoin, etc. Que la réponse à ça, c'est aussi la coopération, effectivement. C'est que je pense qu'on peut pas dissocier la question de la formation de la question de la structuration des réseaux. On ferait pas ce qu'on fait pour les bibliothèques universitaires s'il y avait pas des correspondants formation dans les services communs de documentation. Déjà, si les bibliothèques universitaires s'étaient pas structurées en services communs de documentation couvrant l'ensemble de la documentation, même dans les petits sites, etc. Et que tant qu'on n'aura pas quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça, moi je suis quand même frappé qu'il y a un certain nombre de petites communes pour lesquelles on a pu faire des formations dans le passé, tout simplement parce qu'on a fait des formations pour le réseau dont elles faisaient partie. Y compris d'ailleurs dans le cadre du CNFPT où des antennes départementales nous disaient, voilà, là on veut mettre des choses en place pour telle communauté de communes, pour telle communauté d'agglomération. Donc je ne sais pas si ça répond tout à fait. Mais...
Oui, peut-être juste un petit complément. On peut répondre aussi au niveau du CNFPT par ce qu'on appelle des unions de collectivités qui peuvent être aussi une réponse, mais encore faut-il connaître le besoin. Et c'est vrai que du coup, bien sûr, on a des conseillers formation qui sont en lien avec les collectivités, mais pas avec toutes les collectivités. Et le fait d'être en réseau avec d'autres partenaires peuvent nous permettre d'identifier ce besoin et de monter une union de collectivités pour répondre à ces demandes d'agents qui partiraient peut-être pas sur les formations catalogue pour tous les freins qu'on a évoqués déjà. Ouais.
Ça permet une proximité, effectivement, et l'union faisant la force. Du coup, il y a donc un deuxième sujet sur la question de la coopération, qui est celui de l'outre-mer, donc avec une situation de fragilité que Nathalie nous exposait tout à l'heure, et des pistes qui pourraient émerger liées à la coopération et à une structuration de la formation.
Oui, alors au niveau de la formation de niveau universitaire, des exemples existent à Mayotte, et mon collègue Bruno Lacrampre pourra peut-être après en dire un mot. L'idée d'une coopération interrégionale anti-Guyane, que je connais un petit peu mieux, pour un diplôme universitaire, mais tout cela pour l'instant n'est pas encore réalisé. Sur site, sur un territoire, je parle de ce que je connais, la Guadeloupe, un conventionnement entre le CNFPT et la DAC, avec le versement d'une somme correspondant aux formations spécialisées souhaitées. Malheureusement, en raison du contexte et des priorités qui étaient celles du CNFPT dans la crise, rien n'est encore réalisé, mais nous restons vraiment très très optimistes et impatients, puisque là aussi ça simplifie beaucoup les choses. Le CNFPT est un opérateur précieux et qui écoute aussi nos souhaits, qui peut donc mettre en œuvre sur son catalogue des demandes assez précises. Et puis plus récemment, là encore à cause de la crise, les choses sont un petit peu décalées, mais à l'occasion du premier salon du livre pour la jeunesse qui devait se tenir le 15 octobre en Guadeloupe et qui s'est tenu indirectement en ligne et qui s'étalera sur le reste de l'année par des actions ponctuelles. Un partenariat avec le Salon du Livre pour la Jeunesse, l'École du Livre pour la Jeunesse, puisque la jeunesse est un de nos gros enjeux sur nos territoires, même sur les territoires où la population est vieillissante. La question de l'illettrisme est très prégnante et avoisine avec les 30% est variable selon les territoires, mais pose véritablement la question de l'exposition des enfants et des accompagnants des enfants dès la naissance. Donc une formation autour de la médiation du livre jeunesse avec le SLPJ. Donc le rôle de la bibliothèque départementale, évidemment, est central. Là encore, adapté au contexte, avec une équipe en termes de ressources humaines limitées et qui donc, en dépit de son engagement total et d'un contrat territoire lecture qui a été mené avec eux, ne peut faire que ce qui est humainement possible. Et propose une journée professionnelle annuellement. L'ABF est également là, mais de manière aussi irrégulière sur les territoires. Elle n'est pas là partout, elle est souvent fragile, avec l'offre de la formation ABF que nous connaissons bien. Et que dire encore de la coopération. En tout cas, un travail en réseau sur chaque territoire, je crois, qui est fort entre la DAC, le conseiller livre, la bibliothèque départementale, les bibliothécaires aussi des grandes bibliothèques qui fonctionnent bien ou mieux que les autres. Et puis l'attente véritablement d'une ouverture sur des formations innovantes et avec des ouvertures et des partages d'expériences dont vous parliez, absolument nécessaires et d'autant plus nécessaires que nous sommes loin et coupés de structures performantes qui peuvent donner des idées, qui permettent les échanges de bonnes pratiques et les partages de belles histoires, comme on dit aujourd'hui, qui donnent envie d'aller plus loin à certains collègues qui seraient peut-être un peu confortés dans l'idée que ça fait 20 ans qu'ils sont à la bibliothèque et que le travail, ils le connaissent. Donc ça reste souvent voilà, une idée un petit peu passéiste.
Je crois qu'un des enjeux en Outre-mer est la question de la professionnalisation et du vivier de professionnels. Comment voilà, avoir accès à des agents formés et que la formation pourrait peut-être... Enfin voilà, quelle formation et peut-être oui. Un diagnostic
voilà, projet. Alors effectivement, ce qui est très important, c'est de connaître finalement l'existant, un diagnostic qui compléterait et qui apporterait bien plus que ce que les statistiques annuelles peuvent donner, sachant que la plupart des bibliothèques publiques ne remplissent pas les statistiques de l'Observatoire de la lecture publique actuellement, parce que justement la question de l'accès aux outils, de la connaissance et des priorités que vivent ces bibliothèques sont différents. Donc un diagnostic, un état des lieux qui permettrait aussi de tisser du lien avec les élus, avec les représentants des collectivités, pour qui l'image, mais comme on l'a évoqué aussi ce matin, l'image de la bibliothèque est toujours un petit peu plus poussiéreuse, particulièrement lorsque c'est la même personne qui a assuré la même fonction dans le même lieu pendant 20 ou 30 ans, il est clair que voilà, il faut vraiment parler d'autre chose, de tiers lieu ou de troisième lieu. Moi j'aime bien le terme troisième lieu quand même, parce que c'est un nombre complet, un chiffre qui pèse plus qu'un tiers. Et donc à partir de ce diagnostic et de ces échanges et cette meilleure connaissance des enjeux, avec l'aspect éducation populaire toujours qui est important, et éducation citoyenne, éducation à l'image, amener après à la création de formations qui associeraient les jeunes issus de l'université, des universités de la Guyane et pour les Antilles, donc la Martinique et la Guadeloupe, donc qui est l'université des Antilles, ou ailleurs à Mayotte, mais les associer également avec des professionnels qui veulent monter en puissance et qui sont les futurs dirigeants de ces établissements dont nous avons besoin à la DAC, puisque les millions de la DGD sont là pour être dépensés, mais pas n'importe comment, ni avec n'importe qui, c'est-à-dire avec véritablement des professionnels qui ont des projets et qui sont soutenus par leur politique également. Voilà, donc c'est tout un système à mettre en place, et nous nous réjouirions véritablement d'un diagnostic qui mobiliserait, et nous serions capables dans notre réseau professionnel, entre la bibliothèque départementale, la DAC, l'université, l'ABF, de mobiliser tous les partenaires pour ce travail nécessaire.
Merci Nathalie. Donc sur cette question de la coopération et en général, on le voit bien, donc la question de pilotage quelque part, la question d'objectif aussi essentielle et la question aussi de la connaissance fine territoriale pour pouvoir construire un dialogue partagé semblent les pistes, en tout cas, qui se sont majeures sur cette question de la coopération. Un autre sujet donc, nous intéresse cet après-midi, c'est celui de la formation initiale. Et en effet, si les frontières entre la formation initiale et formation continue, spécialisation et mise à jour des connaissances sont de plus en plus poreuses et les parcours de formation de plus en plus personnalisés, le besoin d'une formation initiale et d'une formation continue de qualité ainsi que la nécessité de leur articulation n'en sont que plus fortes. Par ailleurs, la nécessité d'une formation de base accessible par tous, en ligne, et qui pourrait être utilisée par le plus grand nombre, pourrait permettre une ouverture qui pourrait englober un souci de réussite au concours, de reconversion professionnelle, de remise à niveau, etc. Et sur ce point, quelques pistes pourraient être abordées. Et je voudrais céder la parole aux représentants des bibliothèques départementales qui ont en la matière des expériences et des réflexions en cours.
Oui, alors effectivement, le classique, hein, le classico des bibliothèques départementales, c'est quand même la formation de base ou de formation initiale. Moi, je l'ai plus prudemment rebaptisé en Loire-Atlantique, sensibilisation à la gestion d'une bibliothèque, justement pour éviter la confusion avec une formation continue dans une perspective de reconversion. J'essaie en général de réorienter les personnes qui sont dans cette situation plutôt vers le DU porté par le CFCB, ou vers la formation de l'ABF, qui me semble plus complète. Néanmoins, selon les bibliothèques départementales, cette formation de base est plus ou moins longue, plus ou moins complète, et parfois même obligatoire par convention, c'est-à-dire que pour bénéficier une commune, pour bénéficier des services, de l'accès aux services d'une bibliothèque départementale, de la bibliothèque départementale, doit s'engager à ce que dans l'équipe de la bibliothèque, bénévole ou pas, enfin bénévole évidemment, soit des gens ont suivi une formation initiale bibliothèque, soit les bénévoles sont tenus, qui est trois personnes je crois dans le cas de la Dordogne, de suivre une formation de base à la gestion d'une bibliothèque. Mais les cas de figure sont très différents selon le développement de la lecture publique en la matière. Et sur cette question de la reconversion déjà, peut-être, d'abord, moi, je note qu'après la boulangerie, la menuiserie et le maraîchage en permaculture, les bibliothèques attirent beaucoup de projets de reconversion. Et vraiment, alors c'est peut-être propre au territoire de la Loire-Atlantique, mais je ne pense pas, parce que pour en avoir discuté avec les collègues, je vois qu'il y en a quand même pas mal. Et la perspective, effectivement, d'une formation en ligne, une formation de base en ligne accessible à tous permettrait peut-être à des gens qui réfléchissent à ce type de projet de se positionner, de creuser un peu au-delà des rencontres qu'ils pourront faire avec des professionnels des bibliothèques. Mais il y a plein d'autres cas de reconversion, des reconversions contraintes, ça a été évoqué dans la table ronde ce matin, où les bibliothèques sont quand même très très souvent en piste d'atterrissage, de reclassement forcé au corps défendant, parfois de l'agent et souvent de la direction de la bibliothèque, d'autres agents communaux. Donc là, il y a un vrai besoin de formation, vraiment de formation de base. Et il y a un autre aspect, alors qui n'existe quasiment pas, et je m'en étonne, puisqu'on dit qu'une bibliothèque doit offrir des services spécifiques pour un public spécifique, donc sur un territoire spécifique. Je m'étonne toujours qu'il n'y ait pas plus de croisements dans nos équipements. C'est-à-dire que dans un quartier populaire où, et j'ai travaillé dans ce type d'endroit, 45% des familles sont des familles monoparentales, en gros une femme isolée avec des enfants et souvent avec des horaires bizarres, des horaires de travail. La question d'avoir une puéricultrice ou un puériculteur dans l'équipe de la bibliothèque n'est pas complètement sotte. De la même façon, avoir quelqu'un formé en animation gérontologie dans un autre équipement de lecture publique ailleurs, pour un autre territoire, peut être intéressante, un éducateur spécialisé. On peut multiplier les exemples, et je trouve que autant ce sont des questions qu'on se pose pour la médiation numérique, qui reste encore quand même souvent le fait d'un spécialiste, je dis un pour le coup cette fois-ci, parce que c'est souvent le cas quand même, il faut bien le dire, ça change, mais c'est quand même souvent le cas, d'un spécialiste du numérique, on ne se pose pas la question sur d'autres types de médiation en direction de publics spécifiques. Et je pense que là aussi, ça serait intéressant d'avoir une formation de base pour des professionnels qui viennent d'une toute autre formation, d'un tout autre métier, mais qui viendraient compléter utilement les compétences d'une équipe de bibliothèque. Moi, je ne connais que l'exemple de la bibliothèque Louise Michel à Paris, où il y a une médiatrice familiale au sein de l'équipe. Il y en a sûrement d'autres ailleurs, mais je ne les connais pas. En Occitanie, pour revenir à la coopération, j'ai fait un petit détour. En Occitanie encore, une collègue m'a fait remonter qu'il réfléchissait à proposer effectivement une formation de base en ligne qui viendrait en complément des formations de base proposées par les autres acteurs et notamment les bibliothèques départementales et qui pourraient être un support intéressant. Néanmoins, sur cette question-là, je pense qu'il faut vraiment rester prudent et je ne sais plus qui le disait ce matin, peut-être Franck Périnet, le principe quand même de la formation, je pense, doit rester la formation en présence parce que, encore une fois, participer dans une formation, c'est construire un réseau professionnel, avoir des points d'appui dans sa pratique à venir, et c'est quand même essentiel. Et le distanciel peut venir en complément, en facilitateur, mais ne peut pas se substituer à ces espaces de rencontre.
Oui, merci sur cette formation donc initiale. Des outils existent aussi déjà, et notamment côté CRFCB et CNFPT, et des propositions peuvent se faire jour.
Oui, moi, je rejoins ce que dit Marion sur l'importance quand même du présentiel. Et sur le distanciel, peut-être de la question de l'accompagnement des professionnels, parce que ça peut être aride de suivre une formation qu'en distanciel, quand bien même on a une variété des supports de formation. Mais c'est vrai que le CNFPT va dans ce sens, parce que si je prends l'exemple, alors là on est à nouveau dans de la formation continue, mais je ne doute pas qu'on pourrait mutualiser des ressources. Nous, si on prend le cas de la préparation au concours, et si je prends les assistants de conservation sur le site du CNFPT, il existe 17 fiches sur des thématiques qui peuvent être la médiation en bibliothèque, ça peut être aussi la mise en valeur des fonds et l'accueil en bibliothèque, la sociologie des publics. Voilà. Donc on a aussi cette démarche de mettre à disposition des ressources que les agents peuvent consulter à tout moment. Donc on va aussi dans ce sens parce que ça permet aussi de rendre accessible ou de faciliter la préparation à des stagiaires qui ne peuvent pas suivre toute la préparation au concours, même si c'est sûr que c'est toujours préférable. Voilà, donc moi je partage l'intérêt d'une formation initiale avec des ressources, avec là aussi un point d'intention, puisqu'on sait qu'une ressource peut être rapidement obsolète, donc il faut aussi se poser la question du suivi de la maintenance de ces ressources. Mais c'est vrai que ça peut être en tout cas une entrée qui puisse donner envie après aux agents d'aller en formation en présentiel, puisqu'effectivement l'importance des échanges de pratiques, de la construction de réseaux professionnels, c'est aussi primordial dans les prises de poste.
Oui, une ou deux remarques. Première remarque sur l'articulation formation initiale, formation continue. J'ai envie de dire que nous, c'est vraiment dans notre ADN, puisqu'on nous a créé dans des universités pour avoir ce lien. Je ne sais pas si l'aventure est au coin de la rue, mais pour plusieurs centres, l'IUT est au bout du couloir. C'est-à-dire qu'on est vraiment souvent dans les mêmes locaux, avec des échanges de formateurs, avec des échanges de pratiques, et que, puisque j'ai oublié de préciser que dans les CFCB, nous sommes des professionnels des bibliothèques qui nous transformons, évidemment, quand on y reste un peu trop longtemps comme moi, en professionnels de la formation, plutôt que de la profession. Mais à la base, l'idée, c'était vraiment ça. Et on se rend compte à quel point c'est artificiel de séparer l'initial et le continu, surtout si on parle du post-recrutement. Et qu'effectivement, sur le poste recrutement, je n'ai pas participé à sa création, donc j'en parle à l'aise, même si j'ai été amené à le mettre en place. La formation poste recrutement des assistants de bibliothèque à l'État, qui est maintenant celle des bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale, c'est, il me semble-t-il, un compromis en termes de durée et en termes de contenu par rapport à ce qu'ont été jadis les FIA. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait quelque chose de 150 et maintenant de 120 heures, donc relativement modeste, hein, 4 semaines de formation, mais avec une culture commune. Et c'est maintenant une formation que, depuis les confinements, on procure de façon hybride, parce que je pense aussi que l'hybride est l'avenir du distanciel, et qu'on n'est pas dans l'opposition radicale entre le distanciel d'un côté et le présentiel de l'autre. Ce qui m'amène à dire un mot de ce que nous avons fait depuis des années sur les préparations de concours, notamment les concours de l'État, de plus en plus les concours territoriaux, au niveau du réseau des centres, où nous avons eu une plateforme commune, et que cette plateforme vient tout naturellement s'insérer dans la nouvelle méta-plateforme, si j'ose dire, que l'enseignement supérieur a mis en place avec les CRFCB, avec les urfistes, avec l'INIST, et qui s'appelle Callisto. Hein, donc le site s'appelle Callisto-du-6 formation. Mon rêve, évidemment, c'est qu'on passe à une méta-plateforme avec le ministère de la Culture, parce qu'il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison. Et ce, d'autant moins que je pense que nous avons une préoccupation commune côté université et côté culture, qui est notamment la formation des catégories C. Et effectivement, plusieurs collègues du réseau des CRFCB se sont emparés du sujet, et on est en pleine réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire pour la formation des catégories C. Voilà. Et puis j'aurais eu aussi, mais ça ferait trop un mot à dire, sur les formations de base pour l'outre-mer, parce qu'on a eu aussi des pratiques à ce niveau-là, à Mediadis. Ça a même été nos premières formations en ligne jadis. Et c'est intéressant parce qu'en fait, au départ, c'est des formations qu'on avait développées pour les instituts français, les centres culturels français à l'étranger, etc., ministère des Affaires étrangères. Et ça a été repris par des territoires particulièrement bien intégrés dans leur environnement international, et notamment les Antilles-Guyane, avec le projet européen Caribalédis, etc. Et donc il y avait une réutilisation des supports, des formations, etc., qui avaient été mises en place. Mais on touche, du doigt, me semble-t-il, un des principaux écueils qu'on a sur les formations outre-mer, qui est de s'inscrire dans la durée. Comment faire pour que les choses durent, quoi. On arrive à faire des trucs super, mais comment faire pour que ça dure?
Je n'ai pas la réponse, mais il est clair qu'une formation de base qui permettrait de toucher vraiment un large public, y compris les impétrants dans la profession, parce que ce n'est pas une profession qui fait rêver sur nos territoires, je crois. Elle n'est pas connue. Les établissements de lecture publique ne sont pas si présents dans la vie des collectivités, ni dans la culture d'ailleurs, qui est souvent basée sur l'oralité et sur d'autres pratiques. Et donc, ça, c'est très important. Et là, la question aussi, quelquefois, de la technologie. Mais bon, je crois qu'on arrive de mieux en mieux à être en lien, même en distanciel. Et je pense surtout à une coopération qui permette des allers-retours pour une autre catégorie de formés qui doivent absolument pratiquer, échanger, se créer un réseau professionnel qui sera un réseau collégial, fraternel et d'échange, et dans les deux sens. qui permettrait à des stagiaires des Outre-mer accueillis, admettons dans une, je pense à, par exemple, si elle était partante, la médiathèque Aimé Césaire que nous avions visité il y a quelques années avec le service du livre, et que des collègues aussi de cette médiathèque puissent découvrir et venir travailler, apporter leur expérience. Donc tout est à poursuivre, tout n'est pas à faire, puisque des choses existent déjà, mais tout est fragile. Et là, on est sur un renouvellement de génération qui correspond aussi à un renouvellement de ce qu'est la lecture publique et de toutes ces diverses missions, avec cette mission socio-culturelle, éducative, monoparentalité, qui est bien sûr un sujet très présent également sur nos territoires. Nous sommes ouverts à toutes les coopération dès le moment où un diagnostic aura été posé, et déjà avec le CNFPT, d'essayer de poursuivre ce qui a été engagé avec l'arrivée aussi de nouveaux collègues et d'une dynamique depuis 2019 autour de la culture, donc avec un point fort vraiment à porter sur les Outre-mer. On a vraiment envie de travailler avec vous, et les DAC, je crois, l'ont fait en tout cas en Guadeloupe, sont prêtes verser une somme qui permet après, grâce à vous, de proposer une offre variée.
Avant de donner la parole à la salle, effectivement, nous, un référentiel de la formation de base existe et avait été mis en place par les bibliothèques départementales.
Oui, tout à fait. La commission formation que j'anime, mais je me contente de l'animer, c'est les collègues qui la nourrissent plus que moi. Nous avons travaillé à réactualiser un référentiel qui existait de longue date pour les bibliothèques départementales, qui est un référentiel pour la formation de base. Donc là encore, il ne s'agit pas d'un cadre, mais plutôt d'une matrice souple dans laquelle chaque bibliothèque départementale va piocher pour construire son propre parcours de formation de base, formation initiale, sensibilisation à la gestion d'une bibliothèque. Et vous trouverez, je ne vais pas le détailler ici, ce n'est pas le lieu, on n'a pas le temps, vous le trouverez sur le site de l'Association des bibliothèques départementales. Donc on a essayé de lister, en centrant sur la question des publics, et en 4 rubriques qui sont l'accueil, les services, la collection, et j'oublie le quatrième, l'accueil des publics, j'oublie le quatrième, excusez-moi, mais bien en essayant de l'orienter vers les publics, et donc vous trouverez un référentiel de ce qui nous semblait essentiel d'évoquer dans une formation initiale et également des pistes de pratiques pédagogiques qu'il nous semblait utile de proposer à l'ensemble des collègues pour construire ces formations. Et si je peux me permettre un commentaire, à chaque fois que des collègues qui travaillent dans les Outre-mer interviennent, je suis quand même effarée, quel que soit le fil qu'on tire de la difficulté de ressources qui se mettent en place, et là ce que vous décrivez pour la Guadeloupe et au-delà pour les Outre-mer, c'est quand même très dommage pour nos collègues et pour les bibliothèques, et plus largement pour les populations qui vivent là.
Oui, la présence de ressources, enfin, ne parlons simplement que par exemple de librairies spécialisées, jeunesse, qui sont quand même souvent la porte d'entrée à l'accès à la lecture pour la population. Après, si on tire le fil de la chaîne du livre, évidemment, ou d'une structure régionale pour le livre qui n'existe pas sur tous les territoires. On avance, et véritablement, comme il y a des professionnels à la bibliothèque départementale, à la bibliothèque universitaire, qui joue aussi son rôle. La présidente jusqu'à hier de la section Guadeloupe, par exemple, et la directrice de la bibliothèque universitaire, qui est aussi la responsable de la formation, avec la DAC, avec des dispositifs aussi qui peuvent être comme des livres à soi, qui a été décliné, adapté au territoire, et puis avec certaines collectivités. Nous le souhaitons aussi à l'avenir avec des EPCI, mais là, comme partout, les EPCI, c'est quelquefois plus complexe, arriver à un résultat collectif dont nous ne nous doutons absolument pas, nous les professionnels sur le terrain.
Sur la formation initiale étant aussi un sujet de la coopération finalement avec des thématiques qui se rejoignent. Je voulais profiter de la présence de Mayotte aussi dans la salle pour Bruno sur cette question effectivement à la fois de la coopération et de la formation initiale, peut-être des éléments à apporter sur le regard en Outre-mer aussi, peut-être des nécessités de diagnostic, peut-être la fragilité professionnelle, enfin, etc. Je te laisse la parole.
Oui, bonjour. En fait, la situation de l'Outre-mer, elle est souvent une aggravation de la situation de l'Hexagone, et celle de Mayotte est une aggravation de la situation de l'Outre-mer. Donc, on a beaucoup de difficultés à mettre en place effectivement des actions pérennes. Alors, le Médiadix est intervenu effectivement au début des années 2000 et au début des années 2010 à Mayotte. Et c'est la seule formation qu'il y a eu jusqu'à présent en matière de bibliothèque. On essaye de mettre effectivement en place quelque chose qui puisse, avec des effectifs réduits d'une quinzaine de personnes, se renouveler. Bon, il y a à peu près une centaine de professionnels des bibliothèques actuellement sur le territoire, et on pense, d'après les ouvertures dont on a qu'on peut suivre, qu'il y en aura à peu près 150 vers 2025. Donc il y a moyen peut-être de faire de la formation initiale. En formation continue, bon, effectivement, là, c'est vrai qu'avec Nathalie Herny, on rit un petit peu quand on parlait de reclassement, parce que C'est vrai que le personnel des bibliothèques Outre-mer et à Mayotte est souvent constitué de personnes qui sont transférées d'autres services de force et qui n'ont pas aucune envie de travailler en bibliothèque. Et c'est pas des gens faciles à former en fin de carrière avec un niveau scolaire très bas. Bon, c'est pas évident. Sur, à Mayotte, on travaille très étroitement avec le CNFPT puisque c'est le. Ils sont très motivés également pour sortir de ce problème. Ils mesurent bien le besoin. Avec l'université, c'est un petit peu plus compliqué, enfin, qui est un centre universitaire. Et on travaille donc sur un programme de formation qui est une sorte d'habillage des formations des CNFPT avec un parcours qui permette d'acquérir les compétences de base, décalquer un petit peu sur la formation d'auxiliaire de bibliothèque, et sachant qu'on a un autre niveau de travail qui est celui des cadres, c'est-à-dire des directeurs de bibliothèque, là, bon, avec des effectifs évidemment plus réduits, mais où le besoin est très fort et existe également.
Non, je voulais dire qu'à Mayotte, vous aviez aussi une agence régionale du livre, ce qui n'est pas le cas, par exemple, à la Guadeloupe, mais chaque territoire a ses spécificités qui sont elles-mêmes assez mouvantes selon les personnalités qui dirigent tel ou tel établissement. Et est-ce qu'au niveau de la formation, quels sont les liens que vous avez avec l'agence régionale du livre, par exemple, à Mayotte, c'est plus ponctuel ou ce sont des services civiques qui jouent un rôle de lecture publique sans être sur la durée ?
Oui, il y a effectivement de la formation de service civique, une quinzaine environ, mais bon, qui sont pas des. Qui, une fois leur service civique terminé, ne sont pas embauchés par les bibliothèques, puisque en fait, c'est du recrutement catégorie C sans concours hein, à Mayotte. Donc il faut que la personne soit de la commune, hein, partout dans l'outre-mer. Et donc, c'est pas un critère de recrutement pour des services civiques. Donc. Voilà. La bibliothèque départementale actuellement est un petit peu affaiblie à Mayotte puisqu'elle est fermée depuis 3 ans pour travaux. Il n'y a pas eu véritablement de plan de continuité de service. Donc leurs actions de formation se sont arrêtées. Et en ce qui concerne l'ARL, elle pourvoit beaucoup d'actions, mais elle est plutôt en observation à l'heure actuelle sur ce qu'on fait avec le CNFPT, parce qu'elle n'a pas les ressources de faire de la formation de base des agents de bibliothécaires catégorisés. Le financement, bien entendu, ne peut passer que par les cotisations qui sont versées au CNFPT. Enfin, c'est tout à fait naturel que le CNFPT soit sur ce sujet.
Bonjour. Alors moi je suis Sarah Ibrahima, je viens de Mayotte. Je travaille aux archives départementales de Mayotte en tant que responsable de la bibliothèque. Je rejoins un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, à Mayotte, on n'a pas les mêmes problématiques qu'au niveau métropolitain. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même des choses qui arrivent à se faire, notamment au niveau des formations. Moi, je ne suis pas bibliothécaire, mais je suis cadre A. J'ai réussi un concours d'attaché territorial qui m'a permis d'intégrer ce poste. Effectivement, par exemple, au niveau des concours, ça fait 10 ans que je travaille au niveau des archives départementales et j'ai jamais vu passer un avis de concours de bibliothécaire territorial. Il a fallu que j'aille le faire à l'île voisine de La Réunion où il y avait un seul poste ouvert au concours interne sur 50 candidats. Je voulais juste rajouter que Mayotte est un jeune département. Donc, évidemment, il y a un retard partout, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau tout simplement de la formation. Mais que je pense qu'il y a des gens qui, comme ça a été dit, il y a un renouvellement des générations et il y a des gens qui sont motivés, il y a des jeunes qui sont là et qui essayent de faire avancer les choses. Moi, j'ai pu notamment bénéficier de pas mal de formations au niveau du CNFPT. Je fais également partie du réseau des bibliothécaires de Mayotte. Donc, je connais un peu tout ce qui est problématique de lecture publique au niveau du territoire. Donc, voilà, je tenais juste à souligner qu'il y a des choses qui se font. Ça a l'air, vu de l'Hexagone, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se fait, mais... Je pense qu'on est un jeune département et qu'il faut du temps pour essayer de rattraper le retard qu'il y a. Donc moi, je compte sur la jeunesse qui est là et qui je pense que est un peu plus sensibilisée au niveau culturel, donc spécifiquement au niveau des bibliothèques. Voilà, merci.
Donc Véronique Palanchet, je suis directrice du CRFCB d'Aix-Marseille Université qui dessert les régions PACA et Corse. Je voulais tous vous remercier pour tous ces éléments concrets que vous avez donnés, notamment à travers cette table ronde, et qui sont susceptibles d'ouvrir des pistes de collaboration pour les régions où c'est un peu plus compliqué, car les acteurs sont très nouveaux et donc ne connaissent pas les historiques. Alors quelquefois c'est un avantage, d'autres fois c'est un peu plus complexe. Christophe Pavlidas a évoqué la variété, la diversité des conventions, non-conventions ou appels d'offres qui lient les antennes régionales des CNFPT et les CRFCB. Et vous avez, Nathalie Scorians, rebondi en disant que les marchés étaient bien entendu réservés aux régions où on passait le seuil prévu par le Code des marchés publics. J'ai donc une question très concrète. Est-ce qu'il serait possible de l'expliciter auprès des antennes régionales des CNFPT, qui nous expliquent qu'ils ne peuvent pas travailler... Alors, sachant qu'on a un partenaire tout à fait de bonne volonté et qui vient d'arriver, qui est là depuis très peu de temps, à qui on dit qu'il ne peut pas travailler avec une autre instance de formation de la fonction publique, sans passer par un appel d'offres, sachant que le CNFPT PACA ne veut pas passer d'appel d'offres. Donc on est un peu dans une situation très particulière, puisqu'autour de la table, tout le monde est là, la DRAC, dont je salue la présence ici et qui est très accompagnante, l'Agence régionale pour le livre, qui joue vraiment un rôle de communication et d'aide à la fluidité du dispositif, si on peut dire, Aix-Marseille Université, qui s'investit beaucoup, y compris financièrement, pour faire fonctionner le dispositif, et notre collègue du CNFPT, qui semble un peu seul, et sans éléments juridiques très solides, puisqu'aujourd'hui, vous venez nous expliquer que ce qu'on veut faire ensemble et qu'il n'arrive pas à faire, on pourrait le faire. Ça, c'était ma première question. Et alors, comme je l'ai dit, on se dessert PACA et Corse. Pour la région Corse, on a un autre problème, c'est qu'on n'arrive même pas à identifier le nom de l'interlocuteur en matière de formation pour les bibliothèques. Alors, je le dis sans aucune médisance, sans aucune... C'est une vraie difficulté pour identifier le collègue de PACA. Très concrètement, il m'a fallu quasiment 6 mois, parce que dans une réunion, par hasard, j'ai croisé quelqu'un qui le connaissait personnellement. Les noms n'apparaissent sur aucun site. En fait, c'est vraiment compliqué. Je suis désolée. L'ARL n'avait pas son nom, la DRAC n'avait pas son nom, donc c'est compliqué. Et pourtant, tout le monde est de bonne volonté, et c'est là-dessus que je veux insister.
Oui, enfin, j'entends ce que vous dites. En plus, moi, je voudrais souligner la situation particulière. Je l'ai évoqué tout à l'heure, depuis août 2019, et la loi sur la transformation de la fonction publique a imposé au CNFPT de se réorganiser. Et c'est vrai que dans chacune des délégations, ou ce qu'on appelle les espaces de coopération interrégionaux, et en l'occurrence, pour celui qui vous concerne, PACA Corse, le CNFPT s'est vraiment réorganisé, et là où on avait des réseaux, ce qu'on appelle de spécialités, donc avec des conseillers formation en délégation qui ont des spécialités, alors culture, mais ça peut être d'autres domaines bien évidemment, on est en pleine réorganisation et les réseaux ont complètement changé. Donc en plus avec la crise qu'on a connue, je comprends la difficulté qui est la vôtre. Dans les semaines qui viennent, ces choses-là vont se poser et vous devriez vraiment avoir un interlocuteur en PACA, mais comme ailleurs, de réellement identifier avec la mise à jour notamment des organigrammes sur le site du CNFPT pour mieux identifier qui fait quoi. J'entends vos difficultés. Après, ce que moi je veux noter aussi, C'est qu'au CNFPT, on a une diversité des organisations, puisque chaque délégation, et je l'ai dit tout à l'heure, maintenant on en a 18, s'organise pour être au plus près des besoins de son territoire. Et effectivement, en PACA, la masse que représentent les agents territoriaux, et donc aussi notre organisation, n'est pas la même que si on est dans le Limousin. Voilà, donc j'entends, mais je pense que ça va se résoudre. Et je ne doute pas, comme vous l'avez dit, que mes collègues ont envie aussi de travailler avec vous. Hein, donc, on est une grosse structure, hein, on est 2500 personnes sur l'ensemble du territoire. Et je peux comprendre que par certains endroits, c'est complexe à travailler. Mais on est là pour améliorer les choses et je n'en doute pas.
Oui, bonjour, Marion Sieur, la bibliothèque départementale de la Somme. Je voulais juste apporter un témoignage sur la collaboration CNFPT, bibliothèque départementale. Nous, dans la Somme, on a labellisé 4 formations en 2021 et pour notre réseau, pour l'instant, c'est que du positif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a plus de stagiaires dans nos formations parce qu'elles sont plus visibles, notamment pour les grosses communes comme Amiens, qui est une communauté d'agglomération. Ça permet de légitimer la formation pour des communes ou des communautés de communes qui... dont les services de formation ont du mal à laisser partir leurs agents. Là, le fait que la formation soit labellisée CNFPT, ça leur pose moins de problèmes. Et le très, très gros avantage pour eux, c'est qu'ils se font rembourser leurs frais de déplacement et d'hébergement quand c'est le cas. Parce que nous, sur notre réseau, en tout cas, c'était un problème majeur. On a des communes qui ne remboursent aucun frais de déplacement en formation, qui incitent même leurs agents à partir en formation sur des jours de congé. Donc voilà, c'est la réalité. Et là, le fait que ce soit le CNFPT, c'est plus facile pour ces agents-là de se déplacer. Et puis, ça permet aussi aux autres collègues des départements de venir sur nos formations, du coup, de manière plus facile et plus fluide. Et le dialogue avec le CNFPT est quand même simplifié dans la mesure où nous, de notre côté, c'est l'organisation en communication pleine avec eux. Le seul point où nous, on a tout à notre charge en termes d'organisation, c'est vraiment pour les bénévoles, puisque nous, on ouvre aussi ces formations-là à nos bénévoles qui, eux, ne passent pas par le CNFPT. Mais pour nous, pour l'instant, c'est que du plus. Et en 2022, on passe de 4 formations à 6 ou 7, je crois. Voilà.
Merci Marion. Je vais juste rebondir, puisque c'est une expérimentation qui est menée en Haute-France et qu'elle vaut pour l'ensemble des départements de la région et que notamment sur le sud de la région. Effectivement, ça a permis de faire émerger des échanges interdépartementaux sur le territoire. Voilà, je crois qu'on est arrivé au terme de la table ronde. Je voulais vraiment remercier l'ensemble des intervenants pour leur participation, pour les échanges aussi que nous avons eus en amont, qui étaient très nourris et très, très riche en tout cas. Un remerciement particulier à Nathalie qui a, au pied levé, accepté de remplacer Abdoulaye. Donc je sais combien ça peut être inconfortable de se retrouver vraiment d'une minute à l'autre à être sans avoir participé aux échanges. En tout cas, merci à vous tous. Et voilà, je cède la parole à Jérôme, je crois.
Alors, il me revient de conclure et j'ajouterai à ces mots de conclusion des mots très chaleureux de remerciement aussi à la fin. Je vous rassure, ça sera court, 10 minutes maximum. En fait, bon, vous l'avez vu, ce domaine est très riche. Hein. On a déjà vu qu'il y a plein de choses intéressantes qui se font, mais on a vu aussi qu'on avait des marges de progression très intéressantes. Et donc, ce que nous, on propose de faire, c'est qu'en fait, on ouvre aujourd'hui un chantier qui va durer plusieurs années. Alors, selon les objectifs qu'on va se donner, certains pourraient être remplis dès 2022, d'autres prendront plus de temps parce qu'ils sont plus ambitieux. Et donc, on va très simplement, en méthode de projet, dresser une feuille de liste avec des engagements qu'on prend. Il va être au nombre de 10, facile à retenir. Et je vais vous en donner la liste qui relève des discussions préalables à cette séance et des apports qui ont été faits dans cette séance, avec un calendrier. Donc le premier engagement, il est très simple, c'est de continuer, de poursuivre le dialogue en se dotant effectivement d'éléments de calendrier et de clauses de revoyure. Et donc d'ores et déjà, je peux vous annoncer que chaque année, probablement à l'automne, on verra si c'est le bon moment, on refera une journée ou une demi-journée, on verra les modalités, hein, en présentiel ou en distanciel, sur la formation, de façon à voir ce qu'on a fait dans l'année, et d'année en année, à voir comment on avance sur les objectifs qu'on s'est donnés selon le calendrier. Donc ça, c'est le premier engagement. Deuxième engagement, je pense que c'était évident, on a fait un travail formidable de préparation en concertation, il faut continuer bien sûr à travailler de manière... Je veux dire, en associant tous les partenaires. Olivier Bianchi a dit combien c'était intéressant, et Isabelle Piau l'a rejoint, combien c'était aussi intéressant d'associer les associations d'élus. Et je sais que dans la salle, la FNCC est représentée et souhaite aussi travailler avec nous. On a parlé du référentiel de compétences, mais sur d'autres sujets, associer les directeurs d'affaires culturelles. Donc voilà, deuxième engagement qu'on prend, et je veux dire, on a tout intérêt à le prendre quand on voit la richesse qu'ont constitué les échanges préalables à cette séance, hein, c'est d'élargir à tous les acteurs intéressés. Troisième engagement, ça a été dit lors de la première table ronde, l'engagement de publier chaque année, en lien avec le CNFPT, le ministère de la Culture et le CNFPT, un état des lieux, à la fois des ressources humaines travaillant en bibliothèque et des journées de formation. Quatrième engagement, ce référentiel national de compétences, qui sans être un outil contraignant, est un outil qui se veut souple et qui sera travaillé en collectif pour servir aux professionnels à faire de plans de formation et aux organes de formation pour enrichir et piloter leur offre. Cinquième objectif, une meilleure coordination. On a vu l'échelle régionale nous paraissait le bon modèle. Alors, il n'y a pas tous les acteurs partout, de la même façon, ça a été dit en Outre-mer. Ça a été dit en Île-de-France. On sait aussi que la déconcentration... Si vous m'autorisez, je crois que je vais m'asseoir. Ça sera plus simple pour moi. Je crois que la déconcentration fait que d'une région à l'autre, ce n'est pas toujours les mêmes schémas. Au CNFPT, à l'État aussi, hein, y a pas de, on n'est pas privilégié de ce point de vue. Mais on pense que l'exemple breton... Alors je ne vais pas parler d'exemple breton, mais je pense qu'il y a vraiment... Au niveau de la coopération régionale, des choses importantes à faire en formation continue, mais aussi peut-être en insérant les organismes de formation initiale. Ça a été dit notamment dans la table ronde sur la formation initiale. Sixièmement, il faut retravailler la question des concours. On pense qu'il y a des petits ajustements, ce n'est pas très compliqué. Il faut faire bouger des décrets, il faut faire bouger des arrêtés pour gommer un certain nombre d'éléments dans les conditions d'accès aux concours qui sont obsolètes, qui sont plus de mise, de façon à élargir les viviers, éventuellement bien coordonner ça avec les concours d'État, pour pas que des concours aient lieu au même moment, et pour permettre à des candidats qui sont intéressés par les bibliothèques de passer des concours dans les deux fonctions publiques. Alors Pierre-Yves, j'irai pas jusqu'à la troisième, hein, l'hospitalière, je la prends pas, je prends juste territorial et État. Mais je crois que ça a été bien dit, je crois qu'il y a un petit travail très simple à faire sur les textes des concours pour élargir les viviers des candidats et pas poser des freins qui sont le plus souvent stupides lorsqu'on les connaît et qui empêchent les candidats de passer les concours. Septièmement, la liste est longue, mais je fais vite. Alors, on a parlé de la question des formations post-recrutement qui, de notre point de vue, doit être améliorée et prolongée du côté de la territoriale. A été cité par Christophe Pavlides le modèle d'une formation à l'État en 4 semaines sur un modèle hybride qui nous paraît peut-être, moi c'est à creuser, hein, qui nous paraît peut-être un modèle acceptable pour les collectivités territoriales, notamment pour les collectivités territoriales petites, pour lequel c'est une vraie difficulté de laisser partir des agents pendant des durées très longues. Et donc, il faut arriver à un temps de formation qui soit relativement resserré, pas forcément en continu. Hein, et donc, 4 semaines pourrait être, puisque ça existe à l'État, ça a l'air de marcher un bon moment, à caler à différents, selon différents systèmes et modalités pédagogiques. Et l'hybride peut aussi nous aider. Huitièmement, tout ça sera mis par écrit, je vous rassure, et on ajoutera des éléments de calendrier. Hein. On a déjà dit que tout à l'heure, pour l'état des lieux des personnels référentiels, je pense que c'est un sujet qui peut être mené dès 2022. Pour la coordination de l'offre au niveau régional, c'est un sujet plus ample qui prendra un peu plus de temps selon les régions. Mais j'ai déjà entendu qu'en Pays de Loire, ça allait se mettre en place. Dans d'autres régions, en Bretagne, ça marche depuis 25 ans. Mais donc, on peut se dire que d'ici 2-3 ans, d'ici, disons, 2024, on pourrait avoir généralisé ça à toute la France. Les modalités de concours, c'est des sujets qui me paraissent techniques et qu'on peut... Alors, qu'il faut traiter à la direction générale des collectivités territoriales, avec plusieurs organismes, avec les instances de la fonction publique. Mais je pense qu'on peut aller vite. On pourrait se donner 2022-2023 pour toiletter les concours. Donc pour les formations post-recrutement, je pense qu'il faudra du temps. Il faut discuter. C'est un sujet à construire. Mais je pense qu'en 2-3 ans, on doit pouvoir y arriver. A été évoqué, donc, neuvièmement, l'outre-mer. Donc, sur l'outre-mer, c'est un problème, je pense, plus ample que la formation, parce que derrière, il y a des questions de recrutement aussi. Et il faut, si on veut que la formation fonctionne et sur la durée, qu'il y ait des postes qui sont créés, qu'il y ait des concours qui soient ouverts. Ça a été dit à Mayotte, il n'y a pas de concours qui sont ouverts. Et donc, derrière, c'est la question aussi de l'emploi aussi, de l'emploi public à Mayotte. Donc, je pense que c'est une question beaucoup plus ample, mais le ministère de la Culture est tout à fait prêt avec l'ensemble des interlocuteurs, avec le ministère de l'Outre-mer aussi, on en a parlé avec eux, à s'engager sur un chantier d'Outre-mer qui est spécifique, avec des spécificités régionales. Ce n'est pas tout à fait la même chose à La Réunion qu'à la Martinique, à la Guadeloupe ou en Guyane, hein, ou à Mayotte. Et donc, ça sera du sur-mesure. Il faut qu'on fasse du sur-mesure, il faut qu'on adapte complètement les modèles. Il y a des choses qui se font déjà, ça a été dit à Mayotte, par notre collègue qui travaille en archive, par le conseiller libre au sujet d'une collaboration au CNFPT. Donc on est confiant et c'est un sujet de l'outre-mer qu'il faut prendre à bras le corps. En tout cas, nous, on est prêts à le prendre à bras le corps avec l'ensemble des acteurs locaux pour construire et imaginer des solutions propres à l'outre-mer. Deux derniers points. L'élaboration d'une formation de base, c'est un point qui est abordé en fin de journée. Je pense qu'il y a, c'est pas forcément une formation, on a parlé de sensibilisation. Je pense qu'il peut y avoir un besoin, effectivement, un hybride, même si on est tous attachés au présentiel, ça a été dit. Hein. Il y a certainement des choses à inventer. Certains le font déjà. Plusieurs exemples ont été cités en bibliothèque départementale. Le CNFPT met déjà des ressources à disposition. Il y a une plateforme Callisto, donc là il y a un travail à faire qui prend un peu plus de temps parce que ça a été dit, hein, derrière il y a des questions de maintenance, hein, c'est bien de mettre des ressources mais il faut les maintenir, les actualiser, et donc c'est un travail quand même plus lourd qui demande des investissements techniques puisqu'on parle de plateforme et qui demande de la maintenance avec des crédits de fonctionnement aussi, donc c'est un sujet un peu plus lourd mais qu'on souhaite aborder. Et dernier point, je pense que ça a été dit par Corinne de Toury, l'apprentissage est quelque chose qui nous fait envie. Et je pense qu'il faut qu'on essaie de travailler cette question pour développer l'apprentissage, parce que je pense que c'est un des meilleurs moyens d'entrer dans le métier. Alors, il y a certainement des freins en termes de RH du côté des collectivités territoriales qu'il faudra approfondir aussi. Il y a des questions financières derrière, il peut y avoir des questions de plafond d'emploi dans des établissements publics. Bon, je ne pense pas que les plafonds d'emploi touchent les collectivités territoriales, mais je sais que dans certains établissements publics, ça joue. Donc l'apprentissage fait partie aussi des 10 objectifs. Donc voilà, je pense qu'on a beaucoup de travail devant nous. Ceci dit, c'est passionnant parce que c'est un travail collectif et je passe au remerciement. Et donc je voudrais remercier collectivement et je voudrais remercier l'ensemble des... Et je vais oublier des gens, donc je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront. L'ensemble des associations, l'ensemble des organismes de formation, l'ensemble des structures administratives, ministérielles, l'inspection générale, qui joue un rôle très important, les associations d'élus, les associations de cadres. On est très content d'avoir Isabelle Piau pour la FNADAC, qui ont participé à la préparation de cette journée et qu'on va continuer à solliciter pour travailler ensemble sur ces dossiers avec le CNFPT. Moi, je suis très heureux ça a été dit par la ministre, très heureux de la collaboration avec le CNFPT. Et voilà, je pense qu'on va garder ce cadre collectif. Je voulais remercier tous les participants aux réunions préalables. Et je voudrais remercier aussi pour la journée d'aujourd'hui en particulier. Et je sais que Christine Carrier, qui est retenue par un conseil d'administration de la BPI, qui ne peut pas être là, m'a bien demandé de l'associer à ces remerciements. Je voulais remercier l'ensemble des équipes de la BPI qui nous ont accueillis dans des conditions tout à fait remarquables. Donc je voulais vraiment les remercier. Je remercie aussi tous les collègues de la direction de l'IF qui ont travaillé à ce dossier. Je pense bien évidemment à Raphaël Gilbert, sans lequel rien n'aurait pu se faire aujourd'hui. Je pense aussi à Thierry Clerc, dont l'action est discrète, mais qui est très importante. Et je citerai aussi Johanna Wazani, qui a beaucoup aidé Raphaël dans l'organisation matérielle. Je remercie aussi les personnes que je ne connais pas, mais qui ont travaillé à la Vélotypie et qui ont dû faire face à une multitude de sigles qu'elles ne connaissaient pas forcément. Et je pense que ça ne doit pas être évident de faire de la Vélotypie parmi les professionnels. Et je remercie enfin et très chaleureusement la régie, parce que alors les métiers des bibliothèques évoluent, les métiers de personnes qui travaillent dans les régies doivent évoluer, parce qu'on doit faire de la vidéo avec Clermont, on doit projeter des schémas de Raphaël, on doit faire de la Vélotypie qui doit rentrer. Et donc voilà, je voulais remercier énormément la régie qui a fait un boulot fabuleux. Donc bravo pour eux, merci. Et donc on se dit à très bientôt. Et on mettra sur le site du ministère un compte-rendu de la journée et la feuille de route. Merci.